Entrez dans le monde des papous de France Culture. Bonjour. Françoise Tressard et la belle équipe en piste jusqu'à 13h59. À l'affiche du jour, le coup de griffe d'Hervé Le Tellier et les confidences d'une chose, selon Violaine Schwartz.
Je suis coquine de sort, je suis un savon de Marseille, peau chère. Aussi populaire que la canne bière.
Un petit mot sur la porte pour des contre-pays honnêtes. Une histoire de poussin tout en SMS. La chasse aux inédits de Musset par Patrick Beignet. Et les rimes de hasard pour poèmes à notre façon avec Dominique Muller, Serge Joncourt, Jacques Vallée et Jean-Bernard Pouy.
Ça me rappelle une blague d'un metteur en scène qui dit à un type qui fait une panne comme ça dans un film, il dit « Bon, tu rentres, il y a une scène d'orgie et tu cries « Mais c'est Byzance !» Le type rentre sur la scène, se précipite sur le premier acteur qu'il a fait « Mais c'est Byzance !»
Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois un numéro des Papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an et disponible 1000 jours à la réécoute sur la page des Papous où vous pouvez poster vos remarques, rubrique commentaires. Les Papous, c'est parti avec un pamphlet d'Hervé Le Tellier, coup de griffe ou exercice de grogne contre les petites choses de la vie quotidienne qui l'insupporte. C'est quoi, Hervé ?
Les listes.
Les listes ?
Liste de courses.
Ah !
Ouais. Chérie, tu pars sans la liste. Note qu'il faut prendre du beurre. Et marque aussi les yaourts, et puis du pain blanc pour le grille-pain. Et puis du vinaigre balsamique, il n'y en a presque plus. Ah, j'aime pas les listes. J'aime pas les listes de courses. C'est-à-dire que j'aime pas faire des listes.
Ouais.
Et j'aime pas qu'on confie des listes de courses.
Et peut-être pas faire les courses non plus.
J'aime faire les courses.
Ah bon ?
Mais c'est les listes.
Ah bah tiens, j'ai une liste.
Alors d'abord, c'est insultant, la liste de courses. On vous signale discrètement que, mon Dieu, votre mémoire, hein, c'est plus que c'était. Hein, et que le sucre glace, c'est sûr, mon chéri, tu vas l'oublier. C'est vrai que, moi, d'instinct, je ne pense pas au sucre glace. Mais franchement, est-ce si indispensable ? Alors bon, vous regardez la liste et d'un seul coup, vous n'êtes plus dans un supermarché. Vous êtes en train de cocher les cases d'un QC à midio où il n'y a qu'une réponse. Donc voilà, j'aime pas. Ensuite, la liste, ça vous rappelle avec une certaine impolitesse que livré à vous-même dans un supermarché, hein, vous achetez absolument n'importe quoi. On vous laisse en guider par les as du marketing qui ont parsemé le magasin de pièges pour votre esprit faible. Alors vous rentrez, puis vous dites « Chérie, j'ai ramené 5 kilos de topinambours, ils étaient en promotion. Il y avait 4 pots de Nutella pour le prix de 3. Et puis comme il y avait la queue à la caisse, bah, j'ai pris des chewing-gums et aussi des fraises Tagada.
Oui. »
Non.
Bon, c'est pas bête.
Et c'est là que vous comprenez que c'est pas une liste qu'on vous a donnée, en fait. Oui. C'est pas du tout un aide-mémoire, c'est un garde-fou. Voilà. Et puis vous avez dû remarquer, la liste de courses n'est jamais organisée comme le sont les rayons. C'est-à-dire que la personne qui a fait la liste, et c'est jamais moi, n'a pas pensé à s'informer du plan du supermarché. Moi, comme la liste m'ennuie et me stresse, je la fais dans l'ordre, hein, pour ne pas en plus avoir à réfléchir et me souvenir de ce que j'ai acheté. Donc si ça commence par mie de pain, ben, je vais à la boulangerie. Et ensuite, il y a marqué merguez, je pousse mon caddie jusqu'à la boucherie, 30 mètres minimum. Etc, etc. Ça, je passe et je repasse dans les rayons, hein, ça c'est sûr.
Mais hein. Ça fait un peu de footing en même temps,
ouais.
Pas mal.
Alors, bien sûr, je connais des malades de la théorie des graphes hein, qui sont capables de réorganiser mentalement leur liste de courses pour minimiser le parcours dans le supermarché. Alors on rentre par le rayon cosmétique, donc shampoing, numéro 3 sur la liste. Puis à 10 mètres, on repère le rayon ménage, donc liquide à vaisselle, numéro 10 sur la liste. Puis 15 mètres, affaire pour le papier toilette, numéro 8 sur la liste. Mais en me détournant de 3 mètres, je peux acheter des bougies en position 12 sur la liste, etc. C'est plus des courses. C'est le plan de vol du compagnie aérienne pour économiser le kérosène. Voilà, un autre truc. Moi, je ne sais pas de quoi j'aurai faim quand j'aurai faim. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas. Alors, qu'on dise, ce soir, je vais me faire des crêpes. Bon, passe encore, mais sincèrement, ça vous arrive de vous dire, tiens, ben, dans 6 jours, je mangerai bien des paupiettes. Jamais.
Ah non, c'est des paupiettes.
Et si vous avez fait votre liste, c'est que vous avez anticipé. Oui. Oui, le plaisir, si vous ouvrez le frigo en vous disant joyeusement, porté par l'enthousiasme de l'aventure culinaire, alors, qu'est-ce que je vais manger ? Et qu'en fait, vous savez forcément ce que vous allez manger, puisque c'était sur la liste. Vous allez manger des paupiettes. Non, la liste, c'est la mort de l'aventure. Il faut le dire, on a subi un terrible recul depuis qu'on a quitté la forêt et les cavernes. Vous imaginez la scène au néolithique ? Chérie, puisque tu vas chasser, ramène 2 antilopes, 3 marcassins et un mammouth. Rapporte aussi des bêtes sauvages, mais pas trop. La dernière fois, tu en as ramené 3 brassées, ça se conserve pas, il faut jeter, je déteste ça. D'ailleurs, Si tu pouvais trouver plutôt un demi-mammouth, ça suffira. Après, il faut manger du mammouth toute la semaine et ça me reproche. Ah chérie, chérie, aussi, pense à ramener une fourrure de tigre à dents de sable, la mienne est trouée. Ce qui me rappelle une liste de courses formidable. Mais formidable. Une fille m'avait tendu un bout de papier, plié en quatre, avant que j'aille faire des courses.
Oui.
Et quand je l'ai ouvert, il y avait simplement marqué « Achète des trucs bons qu'on puisse manger au lit ».
Ah.
Et ça... Ça, c'était une vraie liste de courses.
Mais elle était amoureuse.
Ah, en tout cas, elle avait faim.
Elle était feignante, surtout.
Aucun commentaire.
Non, on ne posera pas plus de questions, Hervé. Ce sera indiscret. Dites-moi, Ricardo Mosner, un point de vue sur les listes de courses.
Ben, en tant que spécialiste, liste, spécialiste des listes, je prends la défense, évidemment, des listes.
Ah.
Je passe ma vie à faire des listes. Mais c'est vrai que ceci provoque une angoisse, l'angoisse de la liste. Il faut barrer. Liste veut dire infini, infinitude des possibilités et des besoins. Puis, accomplissement, solution, consommation, élimination de ce qui est écrit sur la liste. Puis, recommencement, la liste c'est la vie. Ou si vous voulez, la vie est une liste, à barrer et à recommencer. Bon, jusqu'au jour qu'on ne recommence plus, ben alors c'est qu'on est mort. Puis, moi, en tant qu'artiste peintre, j'ai fait des listes avec des typographies personnifiées. Même, on peut les accompagner des idéogrammes. On dessine une bouteille, une patte de poulet, on barre avec du gros feutre rouge, de l'art des cavernes, je vous dis.
Ne révèle pas trop tes secrets.
La rage des barrés soulage. Plombier barré, impôt barré, EDF barré, attestation barré, règlement barré, dans les meilleurs des cas. Mais la vie n'est pas ainsi et on ne résout pas tout. Alors... Faisons des listes, mais voilà l'essence de cette réponse. Je demande aux autorités, au pouvoir, une allocation spéciale pour les listes. En tout cas, je les demande pour moi, afin de pouvoir accomplir ce qui est écrit. Voilà la véritable lutte. Une aide pour arriver à barrer nos listes, à refaire des nouvelles, et ainsi de suite. C'est le programme du futur. Pour élaborer cette proposition, envoyez vos dons à spécialiste@ricardo.com.
Il n'est pas bête. Hein.
Il est complètement barré.
Il n'est pas bien.
Il n'est pas barré, la liste.
Il a été barré au Stabilo. À vos crayons. Une date à noter sur votre liste de rendez-vous. Elle concerne les Bretons ou ceux qui voyageront en Bretagne le 6 février prochain, plus précisément à Brest. Nous vous proposons d'assister à une soirée des papous dans la tête, soirée enregistrée dans la grande salle du Quartz, le beau théâtre de Brest. Samedi 6 février donc, de 20h à 22h, dans le cadre du festival Longueur d'onde, le festival de la radio. Avec moi, Dominique Muller, Serge Joncourt, Lucas Fournier, Violaine Schwartz, Hervé Le Tellier et Jean-Bernard Pouy, prêts à tous les jeux papous pour vous faire rire ou sourire. Vous êtes les bienvenus, la salle est immense. Et pour ceux qui ont raté le début de l'annonce, les papous de France Culture pour Longueur d'onde, c'est le samedi 6 février au Quartz de Brest à 20h. Tous les renseignements sont à retrouver sur franceculture.fr, à la page des papous, sur l'agenda de France Culture et sur notre page Facebook. Une vie passée à être toute chose. Elle se raconte cette chose qui figure souvent sur les fameuses listes dont il était question au début d'émission. Son parcours de la naissance à la perte des illusions. Ses voyages, les copains, les collègues dans la boutique, les clients, le boulot, la vie, quoi. Et c'est Violaine Schwartz qui imagine son état de choses. Violaine Schwartz, écrivain, chanteuse, comédienne, elle est multicasquette, Violaine. Et si vous voulez découvrir sa casquette auteur dramatique, lisez « Comment on freine », sa pièce de théâtre parue chez POL. Pour l'heure, vous êtes papou, Violaine Schwartz, et dans la peau d'un autre. On peut savoir...
Je suis coquin de sort, je suis un savon de Marseille, pochère. Aussi populaire que la canne-canne-canne-canne-bière. je fais très très mal cet accent. Je ne suis pas douée en accent. J'essaie d'avoir l'air, mais je n'ai pas l'air du tout. Et parfois, vous savez, je me mélange les pinceaux. Je fais l'accent alsacien à la place. Hein, au plat, je suis un savon de Marseille comme ça. Mais quelle fade, hein. Parce qu'en fait, je suis un savant de Marseille, con. Mais pas de Marseille, con de peu cher. C'est trop couillon. Je suis un savant de Marseille-Chine. Vous connaissez Marseille-Chine? C'est une banlieue de Marseille, de l'autre côté des Calanques. Juste après l'île du Frioul, con. Plus loin que le château d'If peu cher. On prend le bateau, tout serré dans des ténères, con. Ah non, je me suis trompée, c'est le contraire. Tout serré dans des containers. Et ça dure, ça dure. C'est pas Dieu possible comme ça dure. Parce que Marseille est devenue une ville énorme, vous savez. Elle s'étale jusqu'à Pékin maintenant. Marseille, c'est devenue la plus grande ville du monde. Non mais regardez-moi, j'en suis la preuve. Je suis un vrai savant de Marseille. Et pourtant, je suis née dans une nouvelle banlieue qui s'appelle Pékin. Ah, c'est très loin du vieux port. Vous pouvez me sentir pour vous en rendre compte. Je suis purement végétal, biodégradable, hypoallergénique, nourrissant, sans colorant ni parfum ajouté, tout comme il faut, et de surcroît, peu cher, peu cher. Vraiment peu cher. Je nettoie comme tous les savons de Marseille, mais je suis née à des milliers de kilomètres d'ici. Et l'accent de Pagnol, il s'est dilué en cours de route, il s'est noyé au fond de l'eau. Là-bas, ils ont un accent très différent. Tangfang. C'est la mère qui a dû faire bouger les consonnes, qui a dû décaler les voyelles. J'ai bien eu quelques cours d'accent à l'usine, mais je n'étais pas très assidue aux cours de langue marseillaise. Du coup, je n'ai appris que deux expressions locales. Con et peu cher.
Ah oui, on avait cru comprendre. Oui.
Ah oui, ça, on se disait. Oui.
Non, mais je me débrouille
on
avec ça.
On se demandait pourquoi.
Mais le problème, c'est que les cacous de l'étagère d'en face, les soi-disant vrais savants de Marseille, qui viennent de la savonnerie du Sérail ou de chez Marius Fabre, ceux qui viennent du centre de Marseille plutôt que de la banlieue, ils n'arrêtent pas de se moquer de nous. Moi, je vois pas la différence entre nous. Les vrais, les faux, je vois pas. On sent pareil, on mousse pareil, on frotte pareil, on lave pareil, on fond pareil. La seule différence, c'est le prix. Il coûte plus cher, peu cher. 30% plus cher que nous. Il n'y a pas de quoi être fier. Des fois, sur le vieux port, où j'habite maintenant, en plein centre de la capitale du monde, il y a des touristes de là-bas qui visitent la boutique de souvenirs où je trône, sur une étagère, entre bouquets de lavande et pastis à l'ancienne. Et je les reconnais à leur accent. Mais je ne comprends pas vraiment ce qu'ils disent, c'est ça mon problème. De même qu'ici, sur le vieux port, je ne comprends pas tout non plus. Quand les pêcheurs gueulent après les mouettes qui tournent autour des poissons, je ne comprends pas tout. Le problème, c'est que je suis ni de là, ni de là. Je suis mondialisée. Et pour finir, tout m'échappe. Tout glisse sur moi, et je glisse sur tout. J'aurais besoin d'une bonne douche bien chaude pour faire des bulles, comme tous les savants du monde, sans me tarabuster continuellement sur mes origines. Comme les cacous d'en face. Alors, ceux-là, ils ne se posent pas de questions sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils nous savonnent avec leur respect des traditions? Vous êtes que des faux qui disent, des copies, des voleurs, des menteurs. Vous êtes juste là pour emboucaner le touriste. Ça nous fait bien mousser tout ça. Ah non, je me suis encore trompée. Ça me fait bien mousser. On est arrivé en pain de 50 kilos, tout mélangé les uns aux autres. Et contrairement aux cacous d'en face, nous, on a vu du pays. Nous, on a rencontré d'autres marchandises. On était dans le même cargo que la moutarde de Dijon, par exemple. Et ensemble, on a traversé l'océan Indien, la mer Rouge, le canal de Suez, jusqu'au grand port de Marseille. Et ensuite, il y a eu ce moment terrible, comme une seconde naissance, quand le conditionneur nous a arrachés à la masse des autres. On était bien tous ensemble dans l'huile d'olive, mais on nous a découpés en cubes de 400 grammes. On nous a gravé sur le visage « Savon de Marseille, extra pur, 72% d'huile », comme un tatouage, sauf que ça fond au contact de l'eau, paraît-il. Mon rêve, ce serait de me retrouver dans les vestiaires du stade Vélodrome, de savonner les aisselles de Madanda, les orteils de Lassana Diarra. Mais le problème, c'est que les joueurs de foot, ils ne viennent pas trop dans les boutiques à souvenirs et puis ils préfèrent les gels douches. C'est plus pratique à transporter qu'ils disent. Tu parles. Les gels douches, c'est que des feignasses. Ils sont même pas capables d'exister par eux-mêmes, de se tenir debout tout seuls. Il leur faut un contenant. Sinon, ils coulent au fond du sac, ils dégoulinent de partout. Ils sont d'une mollesse répugnante. Et j'ai pas peur de le dire, assassine. Parce que ça pollue la planète, tous ces emballages plastiques. Tout le monde le sait. Et les usines continuent à fabriquer des gels douches. Et les joueurs de foot continuent à en acheter. Et les déchets s'accumulent. Et les poissons meurent, asphyxiés au fond des océans. Oh, ça me fend le cœur. Un jour, je quitterai cette étagère. Et je servirai enfin à quelque chose. J'ai hâte de mousser. Et en même temps, je sais bien que ce sera le début de la fin. Car plus je mousse, plus je bulle, plus je fonds, et moins je dure. Un jour, je disparaîtrai dans l'eau du bain. Mais comme dit la chanson, ainsi vont, vont, vont les savons de Marseille-Chine. Ainsi vont, 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 trois petites touches et puis s'en vont. Con.
Il y a un mélange d'exaltation et de doux désespoir chez ce personnage.
Et de résignation.
De résignation, oui. Un batterie.
Et oui, c'est un cyclothymique.
Vous êtes plutôt savon ou gel douche, vous
comme les... savon, savon.
Ah bon, pas comme les fouteux.
Je ne mange pas ce pain-là, si je peux dire.
En dehors de cette réflexion personnelle, Patrick Beignet, vous avez quelque chose à ajouter sur le problème du savon? Enfin, pas bien dans sa peau, quand même. Le savon, le marseillais chinois, là. Vous êtes qui, vous?
Moi, je suis le représentant de l'ACPVP.
Oui, c'est quoi ça?
C'est l'Association culturelle des pêcheurs du Vieux-Port.
Ah oui.
Et nous tenons à protester contre certains éléments de la déclaration qu'on a entendu tout à l'heure de... ce savon apatride.
Ouais.
Nous, nous pêcheurs du Vieux-Port, membres de l'ACPVP, protestons contre les insinuations et les inexactitudes contenues dans cette déclaration. En conformité avec l'article 2 de ses statuts, l'ACPVP, reconnue d'utilité publique, œuvre pour la défense et la promotion de la langue française dans le périmètre du Vieux-Port. Aussi, aucun pêcheur de notre association ne doit être accusé de « gueuler après les mouettes », comme il est dit dans ce texte, et comme le laisse entendre tout cet article. Non seulement les membres de l'ACPVP sont partisans d'un dialogue constructif avec les mouettes, et s'adressent à elles avec une constante politesse, mais plus généralement, ils ne peuvent être accusés de « gueuler ». Entre deux parties de pêche sur le Vieux-Port, ils utilisent en outre avec une grande modération les expressions « peu cher » et « con ». La plupart d'entre eux sont des lecteurs assidus d'Herman Broch et de Fernando Pessoa, dont ils s'emploient à utiliser la langue soutenue, sans pourtant sombrer dans un académisme de mauvais aloi.
Ouais, ils ont raison, oui, ouais, absolument. Non mais c'est bien de le dire quand même.
Ils disent Pessoa d'ailleurs.
Quand il est arrivé à la belle de mai, il connaissait des gains. Le parisien, que Zacoste Fadoli, avec ses yeux de gobi, a dit tout le quartier qu'il est spinché, il fait le fier, ce pébrounas, aux bonnes mères, qu'est Kounas. Les pas de la martiale, c'est un con à la voile, on va lui esquicher le bout du nez. Premier jour au bistrot, il a payé l'apéro à tous ses enfévés. Pas rancuniers, ils se sont pégés jusqu'à la nuit tombée. À la santé peu chère de l'étranger, il fait le fier parce qu'il est riche. Au bord de mer, qu'est-ce que fiche? C'est un vrai rompe-figue. Dit, il est de Martigues, qu'est-ce qu'on peut s'en séguer de ses lovés? Le lendemain, le cacou se promenait partout avec sa fiancée. Comme un trophée, c'était une belle mine au long cou de galine. Elle avait dû la furer au poulailler. Il fait le fier, le parigot, au bord de mer, qu'est Cafaro. Mais elle a le cul presque comme la porte d'Aix, va caguer à Andoum, au Fangoul. Un jour, à Deniston, qui jouait au ballon, il dit, oh les minots, il y a du boulot pour remporter le match, pour se lever le mafre, et allez, vous les gays, les bras cassés. Il fait le fier, facho de con, mais il peut cher un bastisson, et qu'il aille au vieux port faire ses estrambores, peut même s'y néguer l'étranger.
Renaud, la belle de mai.
Où sont les papous? Dans la tête et sur France Culture.
Hop là, guys.
Mais oui, Dominique. Un petit mot sur la porte ou l'art du contrepaix honnête. Jean-Bernard Pouy prétend que ce petit mot sur la porte, qui cache le très correct petit pot sur la morte, comporte aussi un autre contrepaix, beaucoup plus en accord avec ceux de l'album de la Comtesse de Joël Martin, le maître du contrepaix s'il en est, et qu'il cache un contrepaix cochon. Alors moi, je ne l'ai pas trouvé. Vous nous écrivez rubrique commentaire si vous l'avez. Avec Odile Conseil et Jacques Vallée, en tout cas, on joue au contre-pé à mettre dans toutes les oreilles. Ce qui importe, c'est avant tout l'histoire qui permet de passer du contre-pé, ouverture du récit, à sa face cachée, fin de l'histoire. On est bien d'accord, Jacques Vallée?
Eh oui, je vais vous raconter une histoire.
Oui.
Une histoire d'aventure, disons.
Mmh. Qui vous est arrivé, c'est personnel?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, je n'ai pas le tempérament de mon héros.
Ah bon?
Le contre-pé porte sur « En cadeau, il roula à 200 ». Et il y a deux contre-pés.
Ah oui, il est doux, mais à 200, oui. Il s'arrête à 200. À l'heure ne vous a pas intéressé du tout.
À l'heure ne m'intéressait pas. Et d'accord. Il y a deux contre-pés dans cette courte phrase. Un avec les lettres et un autre avec une syllabe.
Oh, il nous mâche le travail, là, je ne vois quand même rien.
Ouais, non. Ça va être si compliqué qu'il nous donne des indices.
En cadeau, il roula à 200.
En cadeau, il roula à 200 à l'heure. Romario voulait remercier son oncle Jeff, son protecteur et son mécène. Celui-ci, qu'il avait pris en charge depuis sa petite enfance à la disparition de ses parents, avait souvent fermé les yeux sur ses excès, ses étourderies. Il appréciait son caractère franc, généreux et brave. À 24 ans, Romario était resté cet enfant intrépide qui agissait de façon inconsidérée. L'oncle Jeff, célibataire bourru et sans fortune, s'était sacrifié pour l'éduquer. Il avait longtemps cherché à discipliner son tempérament fougueux, en vain. Romario était devenu cascadeur. Il doublait des artistes sur les tournages pour des scènes d'accidents, de chutes, d'incendies. Il venait de toucher un gros cachet pour des cascades très risquées et s'était payé une des voitures les plus luxueuses jamais construites, une Porsche exclusive, une Panamera. À l'oncle Jeff, il l'avait présenté comme un cadeau, une balade dans ses Ardennes natales. Fier de l'épater, il poussa une pointe sur l'autoroute. « Regarde, 200, 200 !» Mais celui-ci, pas téméraire, n'incita à la prudence. Romario obéit, il adorait son oncle. Celui-ci se souvenait de James Dean, mort sur une route de Californie, alors qu'il venait d'acquérir une Porsche 550 avec l'argent de ses premiers films. Arrivé sur les bords de la Meuse, qui sillonne la magnifique forêt des Ardennes, Romario décida de se fabriquer, avec quelques troncs d'arbres, une embarcation de fortune pour traverser le fleuve.
Mais il ne va pas aller loin.
Devant cet assemblage sommaire, l'oncle Jeff préféra rester sur la berge. Il pensa au tableau du naufrage de la Méduse. Romario sauta sur le Fresnes-Lys et entreprit de descendre la Meuse au calme imperturbable. La surface de l'eau reflétait les nuages noirs et les feuillages jaunis qui se teintaient de vert, de brun. Il longea les rives de taillis et d'arbres recouverts de clématite, mais les attaches grossières du bois commencèrent à céder.
Aïe, aïe, aïe.
Sous le regard épouvanté de son oncle, Romario s'enfonça de plus en plus. En radeau, il coula à Sedan.
Ah, c'est vrai que le radeau, on l'a vu arriver.
Oui.
Petit à petit. Patrice Comon l'avait écrit depuis le début, c'est ça?
Oui,
à Sedan, si.
Mais non, pas à Sedan.
Parce qu'en radeau, il coula. À 200, c'est à Sedan.
Très bien.
À 200, à Sedan. Mais oui, c'est parfait, ça.
Magnifique.
Ah, puis l'histoire, on voyait, c'est comme un film. On voit les images. L'impression d'être un peu dans African Queen avec une végétation plus domestiquée.
Oui, ou un peu le
l'autre, l'autre, le premier, il est tout simple pour amener le deuxième.
Ah, mais oui, mais il y a
les
toujours...
deux sont parfaits.
Alors, en cadeau, il roula à 200. En radeau, il coula à Sedan. C'est un beau destin. Alors, il faut passer en deuxième, hein, Odile Conseil. Mm-hmm. Je ne sais pas, vous avez la même technique que Jacques Vallée pour fabriquer des contre-pés?
Ah, ça commence par d'affreux gribouillages sur un papier, plutôt, oui. Avec des mots qui sont susceptibles de contre-péter.
Je ne sais pas si on dit ça, oui.
Et voilà, mais c'est très, très laborieux,
douloureux
et pas toujours parfait au demeurant.
Ça va être le cas de celui-là?
Je vous laisserai me dire ce qu'il en est. Alors, ça porte sur « Les pleurs me font chanter ».
Les pleurs me font chanter. Oui, c'est un bon début, ça, hein, pour raconter une histoire.
Les pleurs me font chanter, répondis-je à la voix qui, à travers le judas, m'avait demandé sur un ton peu enjoué, qu'est-ce que c'est? C'est bon, vous pouvez rentrer, poursuivit la voix sur le même ton. On ne m'avait donc pas menti. C'était bien le mot de passe qui permettait de pénétrer dans ce lieu gardé par une lourde porte et d'infranchissables murailles hérissées de tessons, ce lieu dont personne ne savait rien ou ne disait rien. Après des mois de recherche, de rendez-vous secrets, de filatures, de pourboires aussi, de charmes à l'occasion, j'avais enfin réussi. La porte s'ouvrit doucement, elle devait peser des tonnes en grinçant. Ce que je vis me stupéfia. Dans ce lieu, rien n'était droit. Les maisons, les poteaux indicateurs, les arbres penchés, tous à 45 degrés environ, mais pas forcément dans le même sens. Les humains aussi étaient inclinés, comme s'ils avaient tous une jambe plus courte que l'autre. Idem pour les animaux. « Tiens, des dahus des plaines », me dit Jean Péto. « Excusez-moi d'interrompre votre lecture, mais ça ne tient pas debout, cette histoire. » « Eh bien si, c'est le plus étonnant. Tous étaient penchés, mais aucun ne tombait. » « Bon, admettons. Et après, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je vous résume. Albert Hubac, un homme qui penche à gauche, tombe amoureux de Roselyne Adret, qui, elle, penche à droite. Il lui dit qu'il ressent pour elle une forte inclinaison. Écoutez, c'est à la page 69 du manuscrit. Albert courut alors K1K à travers la prairie, traversa le petit bois jusqu'à la clairière où il savait que poussait un buisson de roses. Et en effet, elles étaient là, timides mais fières dans leur écrin de verdure. Les fleurs montaient, penchées.
Oui, les fleurs, on y est pensé, me font chanter. Monter, monter, pencher. C'est ça. Vous le prenez où, le M ? C'est le M de me.
De me, oui. Le che de chanter, il est dans pencher. Le en, il est en.
On peut répéter les deux ?
Les pleurs me font chanter. Oui. Les fleurs monter, pencher.
Oui. Bah, c'est,
oui, non,
c'est hein, oui. C'est-à-dire, monter, pencher, on l'entend moins, mais... Les fleurs, on l'entend très très bien. Et puis moi, l'histoire me plaisait beaucoup. J'étais séduite par cette histoire de gens qui penchent les uns sur les autres.
Je vous enverrai le manuscrit dès qu'il sera terminé,
s'il
Françoise.
S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Chimini, la la la, chimini. Chim chimini, chim chimini, chim chim chérie. Moi j'aime bien ce que je fais, car je fais rien qu'est-ce que je veux. Aussi chaque jour je crayonne assis sur le pavé. Je peux dire que je suis artiste, faut le faire remarquer. Pour trouver ton fils, j'ai toujours des idées. Chimini, la la. C'est Mary Poppins façon le quatuor laqué. Une histoire tout en SMS maintenant, une ville, un dimanche après-midi, deux personnages s'écrivent en raccourci. Lucas Fournier pour le scénario et les dialogues.
Je suis dehors à Paris et je reçois un SMS de ma femme. Tu vois les poussins ? Je réponds non. Elle me fait un retour de SMS. Je suis devant, pourtant ils sont grands. Tu es Miro ? Je réponds non, je suis Braque. Bon, le mieux c'est qu'on se retrouve au Liechtenstein. C'est tout à côté des Lorrains. Elle me répond « Je suis nul en géographie, plutôt vers les Italiens. » Aussitôt après, je réponds « Va bene. » Elle « C'est Bonnard. » Moi « Non, Bonnard, c'est Orsay. » Elle me répond « Bonnard connaît pas, juste de nom. » Je lui réponds « Pas de nom, je suis en sulky. » Elle « En sulky, tu as l'hippodrome ?» Moi « Non, en sully. C'est mon T9 qui corrige sully en sulky. » Elle « Moi, je vois des flamands à côté des poussins. Tu es où ? Moi, ben au Louvre. Elle, sulky. Elle, tu fais quoi ? Je réponds, on avait dit qu'on se retrouve pour l'expo Poussins et Dieu. Dieu, j'ai trouvé, facile, mais les poussins, tu es où ? Elle, au jardin des plantes. Je vois les poussins. Mais Dieu dans tout ça. Oh là, je coupe mon portable.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour, à suivre jusqu'à 13h59, la chasse aux inédits et rime de hasard pour poème à notre façon avec Dominique Muller-Sergencourt, suivi de la critique des Bourrimés par Jean-Bernard Pouy et Jacques Vallée. Alors les inédits, ils font le bonheur des éditeurs et le plaisir des lecteurs. On se régale d'œuvres de jeunesse publiées longtemps après la mort de leur auteur, de bribes de vie privée, de journaux intimes, brouillons de pièces de théâtre, première version. Et je m'adresse aujourd'hui à vous, Patrick Beignet, vous qui avez chassé l'inédit pour nous.
Patrick Beignet, et par ailleurs, vous êtes un expert en matière d'inédit, puisque vous avez travaillé dans les années 90 sur ceux de Raymond Roussel. C'était en compagnie de François Karadec, notamment. Des inédits qui avaient été donnés à la BN en 89, où Annie Angrémy, conservateur en chef, les avait classés et authentifiés. Donc, étudier les inédits, les faire parler, c'est un de vos dadas, Patrick Beignet. Et on revient toujours à ces dadas, non ?
Eh oui.
C'est engageant.
Il fait la voix Karadec en plus.
Là où c'est plus fort que moi, François, qu'est-ce que vous voulez ?
Ben oui, vous êtes un trouveur, c'est formidable.
Et là, hein, ce sont des inédits d'Alfred de Musset.
Ça c'est formidable, alors quelle chance.
Toute notre jeunesse, toute la jeunesse
d'Hervé
Le Tellier. Hervé Le Tellier, surtout. Oui.
Alors c'est il y a 800 feuillets.
Que vous avez trouvé ?
Oui, oui. Mais je n'ai pas tout dépouillé encore.
Non, j'imagine, oui.
Je vous donne en avant-première quelques pages.
Oui.
Ce qui est dommage, c'est que Musset aujourd'hui n'intéresse plus grand monde.
Ah mais si. Ah, mais ici, si, moi j'aime beaucoup Musset.
Vous aimez beaucoup.
Je ne suis pas la seule autour de cette table, Jean-Bernard Puy.
Ah oui, tous les soirs, moi, j'ai un peu de Musset.
Un verre de Musset.
Un petit verre de Musset. Un petit verre de Musset.
Non, mais bon. Les caprices de Marianne, c'est formidable.
C'était ça, l'autre soir, au Théâtre Français. Ouais, l'auteur, oui. Il est vrai, n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière.
Eh bien, précisément, ce sont des vers que je vais d'abord vous lire.
Oui.
De Musset. Des vers de Musset, oui.
Un petit verre de Musset.
Malgré les apparences.
Oui.
Voilà le premier lot, donc. Ce siècle avait 10 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dedans Paris, vieille vie espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit un enfant qui n'était autre que moi.
Ah, oui, alors, et c'est signé Alfred.
C'est signé Alfred Musset, oui. Il y a un commentaire où il exprime son état d'esprit après avoir écrit ces vers. Voilà des vers dont je ne suis pas mécontent. Ils sonnent bien, c'est quand même autre chose que la nuit de mai. Pourtant, il faut encore les travailler. Le premier vers est très bien. Je suis bien né en 1810 et personne ne pourra démontrer que Rome alors ne remplaçait Sparte. Mais le deuxième vers est problématique. Même le plus mauvais élève sait qu'en 1810, Napoléon remplaçait Bonaparte depuis un bon moment. Ce vers n'a de sens que si je suis né avant 1804.
Ah.
Autre problème, il y a un vers que je trouve très mauvais, c'est jeté comme la graine au gré de l'air qui vole. Qu'est-ce que c'est que l'air qui vole, franchement ? Dans quel état étais-je quand j'ai écrit ça ? Je me demande. Mais c'est sans doute le vers précédent qui m'embête le plus. Dedans Paris.
Oui.
C'est vraiment lourd, on sent la cheville. Il faudrait que je sois né dans une ville dont le nom comporte 3 syllabes. Orléans ou Don Rémy, par exemple. Encore que dans Don Rémy, ça sonne pas très bien.
Oui.
Et puis, Paris, vieille vie espagnole, ça fait bizarre. Et c'est pas facile à démontrer. Don Rémy n'est pas non plus une vie espagnole. Alors, Perpignan ? Dans Perpignan, vieille vie espagnole, ça sonne bien. Mais je ne suis pas né à Perpignan. Tout à coup me vient une idée. Je crois bien que Victor Hugo m'a raconté un jour qu'il est né à Besançon, 3 syllabes, et que Besançon a été construite par les Espagnols. Et il me revient aussi que Hugo est né en 1802, à un moment où Napoléon n'avait pas encore percé sous Bonaparte. Je vais lui proposer d'échanger ce poème, qu'il pourrait signer, contre quelque chose de lui. Il fait parfois des choses très correctes que je pourrais signer.
C'est une excellente idée, et il l'a fait en plus. Hein.
Vous croyez ?
Mais on ne le savait pas, quoi.
Mais moi non plus.
Oui, mais maintenant,
on
sait.
Ah, écoutez, je mettrai ça. Oui. Vous ferez une préface à mon édition.
Absolument, oui, avec plaisir. Alors après ?
Après, il y a une page qui s'appelle « Idée de roman ». J'ai eu une idée de roman réaliste, écrit Musset. Alors, il y a un fragment. « Alors, le sang de Nana ne fit qu'un tour. » Elle venait d'apercevoir Gervaise qui, portant un énorme panier de linge sale, descendait la rue des Martyrs, s'offrant presque aux mâles en rute. La garce, pensa Nana. N'en serait-il jamais donc autrement ? N'y avait-il donc que cela pour les faire aller, ces hommes si laids, si bêtes ? Une grande lassitude pesa soudain sur les belles épaules de Nana. Ah, décidément, quelle chiennerie que l'existence ! Au moment où elle croyait avoir vaincu, où elle pensait pouvoir se remettre à vivre, voilà que tout s'écroulait à nouveau. Et pour comble, il se mit à pleuvoir. Ça me dirait bien d'en faire un gros roman, là, c'est le commentaire.
Ouais, mais il a raison. Hein.
Ça me dirait bien d'en faire un gros roman, cette histoire d'une femme, ou plutôt d'une fille, exploitée, mais aussi exploiteuse. Mais je vois un gros problème. Maman va trouver ça insupportable. Elle trouve déjà que je passe trop de temps chez les filles. Si je commence à leur consacrer des romans, elle me fera la morale, me dira que je dois me marier, que la petite Hélène de Fontane est décidément charmante. Dommage. Je vais tâcher de refiler mon roman à quelqu'un qui mettrait tout ça en forme. Peut-être à ce jeune Marseillais qui a un nom italien et qui me demandait des conseils. Son nom m'échappe, Émile quelque chose.
Je vois l'ombre d'un doute dans votre regard.
Ah non, au contraire, ça donne envie de relire Musset.
Bah, bah, c'est un homme intelligent et très malin.
Oui, mais oui. Il a une maman aussi un peu...
Qui le bride.
Eh oui. Ah, ouais.
Ça. Alors...
Vous allez dire que toutes les mères sont pareilles, c'est ça?
Pas de philosophie, Patrice.
Ah. Pas d'amalgame.
Voilà.
Tous les matins, un cachet de pas d'amalgame, 500.
Bon, j'ai un dernier exploit. Je sens que Patrice Delbourg est à bout. Ça va tourner. Moi, je brise quand même encore un extrait, puisque son roman sur la fille qui s'appelle Nana ne peut pas marcher. Il cherche autre chose. Alors là, il y a un feuillet qui s'intitule « Un bon début » avec un point d'interrogation. Et encore des considérations sur le roman. Il faut vraiment que je me mette à un roman. Je ne peux pas éternellement demeurer auteur de petits poèmes et de comédies et proverbes. L'avenir est au roman. J'ai déjà une phrase qui ferait un bon début, mais elle ne me satisfait pas totalement. Ce serait « La première fois que Julot vit Marie-Françoise, il la trouvera franchement laide. » Bon point de départ, mais je crois que les prénoms ne sonnent pas juste. Julot manque de noblesse, d'une certaine tenue. Marie-Françoise, c'est déjà mieux, mais peut-être trop bourgeois. Non pas que je veuille en faire un roman aristocratique, mais j'aimerais que ce soit socialement indéfinissable. Si j'essayais la première fois qu'Antoine vit Cléopâtre, il trouva que son nez était trop long. Ça fait trop historique, c'est pas une bonne direction. Autre possibilité, peut-être meilleure. La première fois que Sébastien vit Andromaque, il la trouva franchement laide. Ça y est presque. Mais Andromaque, c'est pas vraiment ça. Il faudrait trouver un autre nom d'héroïne racinienne. Mais lequel ?
Ah, ça s'arrête là.
Ça s'arrête là, oui.
Ah oui, malheureusement, il n'a pas trouvé, alors. Enfin, on ne sait pas.
Vous semblez connaître ça beaucoup mieux que moi.
On ne sait pas. Il a trouvé ou pas, Hervé Le Tellier, vous qui avez beaucoup lu ?
Non, non, je ne crois pas. Non. Il ne semble pas, non. Non.
Oui. Commentaire, cas, Jean-Bernard Puy, pardon.
Oui, non, je sais qu'il l'a trouvé, mais je m'en souviens pas.
Avant, oui, oui. Oui, Patrick.
Oui, ça nous introduit dans l'atelier d'Alfred de Musset.
Oui. Et, oui.
Puis la réponse est peut-être dans les 800 pages qui restent.
Voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ou disons 15 jours. 10 ans, d'accord. D'accord, avec plaisir. Vous serez là tous ?
Oui. Oui,
oui.
Oh là.
Ah, oui. Oui. Dites-moi, Lucas Fournier, moi je sais que vous êtes amateur de poésie, amateur de ce que fait Patrick Beignet également.
Aussi.
Donc comment est-ce que vous conciliez les deux choses, ces inédits trésors découverts par Patrick Beignet sur Alfred de Musset et votre amour de la poésie?
Je suis correspondant de presse pour la Franche-Comté libérée.
Je sais
si vous connaissez ce journal. C'est pas une revue, c'est un journal, c'est un quotidien. C'est le quotidien de...
Indépendant.
Tout à fait indépendant. Et évidemment, tout ce qui est arrivé là, ça fait le titre de mon journal aujourd'hui. Oui. Voilà, donc la Franche-Comté libérée, et moi dans le Doubs, Victor Hugo ne serait pas né à Besançon.
C'est vrai qu'il y a un doute.
Oui. Alors, je vous lis l'article que j'ai rédigé. Besançon se réveille ce matin sous le choc. On l'a appris hier, Hugo ne serait pas né dans notre ville. Dans une communication présentée à Paris, à l'Académie des sciences morales et littéraires, le professeur P. Beignet a établi que ce n'est pas Victor Hugo, mais Alexandre Musset qui serait né à Besançon. Un texte manuscrit de l'immortel amant de George Sand semble en témoigner. Si cette hypothèse se confirmait, non seulement tout un pan de l'histoire de la cité doubiste s'effondrerait, mais aussi une partie de l'économie byzantine qui doit beaucoup à l'hugolatrie ambiante. Monsieur Beignet soutient l'hypothèse très sérieuse selon laquelle Victor Hugo serait né à Marseille d'une mère dénommée Gervaise et d'un père appelé Aurélien. Le nom de Gervaise apparaît d'ailleurs en filigrane dans l'œuvre de Hugo puisque c'est le nom d'un personnage des Misérables, la petite Gervaise. Quant à Aurélien, Il est le héros du célèbre poème d'amour filial « Aurélien, 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 morne père ». Quant à Alphonse de Musset, sa naissance à Besançon, vieille ville espagnole quoi qu'il en soit, s'expliquerait par la présence de sa maman en 1812 dans notre ville. « Songes-tu que je marche depuis 2 ans sur un rocher taillé à pic ?» a écrit le poète dans Lorenzatio, qui semble ainsi décrire la fière cité doubiste qui se dresse dans la boucle du fleuve. Compte tenu de la gravité de la menace qui vient de s'abattre sur la ville, la municipalité a été convoquée en urgence. D'ores et déjà, les lycées et collèges du département du Doubs ont, à titre conservatoire, décidé de retirer les enseignements consacrés à Victor Hugo. « Nous respectons la présomption d'innocence », a dit le préfet, « mais nous attendons des preuves irréfutables de la part de Victor Hugo attestant qu'il est bel et bien né dans notre département. » Le député-maire a déclaré « Tout ceci n'est qu'un mauvais rêve. Nous nous réveillerons. » Il a tenu aussi à rassurer les Byzantins. Quoi qu'il en soit, les frères Lumière restent toujours natifs de Besançon. Ouais, affaire à suivre.
Ah oui, vous êtes pigiste
oui.
ou... Extrait du film de Xavier Vianoli, Marguerite, avec Catherine Fraud dans le rôle. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, rime de hasard pour poème à notre façon, suivi de la critique des bourrimés. Personnage principal pour le choix des rimes, un chapeau qui trône sur la table du studio, un chapeau plein de petits papiers, et oui, avec 2 mots chacun, rimant entre eux le mieux possible, des mots écrits par 6 papous. Alors après, chacun a son sens de la rime. Il y a les anciens, comme Jacques Vallée, qui prônent la rime riche avec consonne d'appui et ne font pas rimer une féminine avec une masculine, ce serait un crime de lèse-rime. Patrick Beignet, aussi plutôt exigeant. Et puis il y a les modernes, querelle en perspective. Tous les autres, les modernes, pour ce jeu aujourd'hui. Dominique Muller, Serge Joncourt, Jean-Bernard Pouy et Odile Conseil. Serge Joncourt, vous remuez, oui, c'est ça. Remuez bien les petits papiers. Nous allons procéder au tirage au sort de 10 d'entre eux pour vous et pour Dominique Muller. Vous êtes associés pour jouer avec les mêmes 20 mots, mais évidemment, à chacun son poème et son art poétique. Je sais que vous ne vous ressemblez pas tout à fait tous les deux.
Non, quand même.
Alors, les premiers mots.
Alors, Byzance, ambiance.
C'est bien, ça, c'est signé.
C'est
bien.
Magnifique. Hein.
Oui, ah, qui a écrit ces 2 mots?
Odile Conseil.
Mais bravo, Odile.
Ouais, j'ai beaucoup cherché. Hein.
Ensuite.
Il y a un certain effort hein, dans ces 2 mots.
Ah, Sacré-Cœur.
Oui.
Remorqueur.
Ah, c'est bien ça.
C'est pas mal.
Oui. Hein. Ouais, bah, oui. Moi, je trouve ça très bien.
Patrick Beignet.
Ah, bah oui.
C'est pour ça que c'est bien.
Ah, bah, c'est un gage de qualité.
C'est un gage de qualité. Ce sont des labels.
Sacré-Cœur. Remorqueur. Je vous rappelle que vous avez le droit à 2 refus, à condition d'être d'accord tous les deux, bien sûr.
Bien sûr.
Ça ne sera pas facile.
Tremplin.
Oui.
Câlin.
C'est qui, ça?
Tremplin, câlin. C'est Odile.
Moi, je dirais plutôt non.
Ah bon?
Oui.
D'accord.
Vous avez un argument pour refuser?
Oui, parce que le côté câlin, je trouve que ça marque trop son empreinte sur le récit.
Ça oriente, ça oriente.
C'est un très bon argument, ça. Bon, vous êtes d'accord, Serge?
Oui, oui, finalement.
Oui, allez, troisième papier.
Ça se ressemble en tout. Ah, il est blanc, donc c'est un...
Il est blanc. Ah, c'est moi qui ai joué. C'est un joker. Papier blanc, ça veut dire à vous de trouver les mots qui vont rimer ensemble. Mais évidemment, vous pouvez être aidé par Odile Conseil, Jacques Vallée, Patrick Beignet, Jean-Bernard.
Mais pourquoi ils vont se mêler de notre histoire?
Moi, je propose câlin.
De la vie, enfin. Trouve le premier.
Allez, je Dominique pour le premier.
Carambar.
Carambar avec Byzance, ambiance, Sacré-Cœur, remorqueur. Pourquoi pas? C'est pas mal.
Carambar ou carambar?
Carambar, vous savez, c'est les vieux caramels qu'on met.
Oui, c'est pas carambar.
Pour les vieux.
D'autrefois, je veux dire.
Mais non, mais ça existe toujours, je vous rassure.
Bon, enfin, je ne tiens pas à ce qu'on prenne ce mot, par ailleurs. Tes
non,
yeux
mais
se noient.
Les carambars sont les jeunes caramels, il n'y a aucune raison.
Est-ce que vous acceptez carambar?
C'est un joncourt. Si le câlin oriente,
oui,
carambar,
tu trouves un deuxième mot.
Bah, malabar.
Zanzibar.
Ah oui, mais alors là, on est vraiment dans la confiserie, non?
Au rambar.
Oh, bah, quoi, un malabar, ça peut être autre chose.
Ah, c'est vrai, ça a deux sens, un malabar.
Oui, restons-en là, sinon on va au conflit.
Caramba, malabar.
On joue pas à la facilité, hein, vraiment.
Non, c'est bien. Hein. Quatrième papier.
Trier.
Oui.
Et trier.
Oh, c'est subtil, ça, c'est quelqu'un, c'est Patrick Beignet, non?
Bravo.
Oui. C'est le... Ah, mais je le connais, mon Patrick, quand même. Trier, vous acceptez?
C'est subtil. C'est...
Mais trier comme faire des trilles?
Trier, du verbe, le verbe.
Oui, le verbe.
Oui, le verbe.
Bon, vous acceptez, Serge Joncourt, vous êtes d'accord? Très bien. Cinquième papier, et ensuite vous proposerez le chapeau à Dominique.
Ah!
Quotidia, c'est pas bon signe.
Non, non, au contraire, c'est très très bien. Caoutchouc.
Oui.
Boutchou.
Je me reconnais.
Ça, c'est du Dominique Miller? Alors, vous prenez pas, Serge. Vous avez le droit encore à un refus. Hein, mais
j'aimerais bien qu'on reste un peu amis avec Dominique.
Oui.
Oh, mais je n'ai aucun amour propre. Vraiment, vous pouvez le jeter.
Oh, le bout de chou, non, là, vraiment, ça me...
Non,
bon,
non,
vous refusez les câlins, quoi.
C'est comme les câlins.
Bon, allez. Plus aucun refus, je vous signale. Caoutchouc, c'était bien, quand même.
Ah, brillantine.
Oui.
Titine.
Aïe. Le deuxième.
Ah ben, vous l'avez voulu en refusant caoutchouc, bout de chou.
Je tairai le...
C'est qui?
Mais
non,
c'est non, mais surtout, si, c'est quoi, Jacques Vallée.
Bah oui.
Titine, c'est une personne. Je veux dire, c'est mais pas un c'est... mot que je ne connaîtrais pas.
Non, je suppose que c'est une personne et ça fait un personnage. C'est bien.
C'est un personnage.
Oui, c'est pas un objet très particulier de l'artisanat, de je ne sais quoi.
Non.
On passe le chapeau à Dominique Muller, s'il vous plaît, Jean-Bernard. Vous remuez bien, Dominique. Et vous n'avez plus droit à un refus, alors on peut même saluer les mots à leur passage.
Arsenic, bitnic.
C'est du qui, ça?
C'est du Jean-Bernard, évidemment.
Monsieur Pouy, arsenic, bitnic, c'est bien.
Mmh. Oui, hein,
qu'est-ce qu'il en dit, Jacques Vallée?
C'est parfait.
C'est parfait.
Alors, après. Ensuite, un corps blanc.
Ah! Oh ben vous avez droit à deux jokers.
Oui, mais bon, c'est pas si simple.
Eh bien, alors, à mon avis, il y a un seul verbe, et peut-être que vous allez manquer de verbe, non? Qu'est-ce que vous en pensez de moi?
Bon, cela dit, on peut en mettre en plein milieu. On peut,
c'est vrai, c'est vrai. On leur offre un mot, Jean-Bernard Pouy? Allez, imposez un mot.
Mordre.
Mordre.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme rime?
Des rimes.
Tordre.
Ordre.
Ordre.
Tordre.
Tordre.
Désordre.
Désordre.
Ben, mordre et désordre,
ben,
alors.
Allez.
Oui. Merci Jean-Bernard Pouy.
Bien fait pour vous.
Après.
Bah oui, mais bon, on a le droit.
Nyctalope, escalope, et je reconnais son écriture.
Non. C'est qui?
Jean-Bernard.
Escalope, escalope.
Si, on n'a pas plus le droit de refuser.
C'est bien, je parle de l'escalope. Oui, lope, lope.
Alope, alope.
Alope, alope. Oui, c'est pas mal, hein.
Bon, j'espère tomber sur un peu mieux, là, maintenant.
Oui, s'il vous plaît.
Si je pouvais le lire, ce serait pas mal. C'est Patrick Beignet. Poussin et coussin.
Coussin et coussin, poussin. Alors, hein, je dirais que ça se case à peu près comme on veut.
Oui,
on,
oui.
Il y a un P majuscule ou...
Non, mais je pense qu'on peut mettre un P majuscule.
Il vous offre quelque chose, c'est un cadeau.
Vous allez.
Poussin, coussin.
Ils vont finir par écrire une cantine.
Il faudrait que je puisse. Je ne sais pas, moi, tricher pour le dernier, je ne sais pas. essayer de tomber sur l'un des nôtres. Ah, bah, d'ailleurs, c'est l'un des miens. Ah. C'est menhir, un menhir.
Oui, très bon.
Démunir.
Oh, c'est magnifique.
Quel flagorneur.
Je trouvais aussi.
Oh, non. Mais menhir, t'aimes bien, toi, ça c'est...
Oui.
Vous avez prévu de déjeuner ensemble, c'est ça l'idée.
Ah oui.
Bien. Et voilà.
Alors, je récapitule. Byzance Ambiance, Sacré-Cœur Remorqueur, Carambar Malabar, Trier et Trier, Brillantine Titine, Arsenic Bitnik, Mordre Désordre, Nyctalope Escalope, Poussin Coussin, Menhir Démunir. C'est beau quand même, on sent... Une histoire, des histoires possibles, non ?
Je ne sens rien du tout, mais je sens que ça va être très très difficile.
C'est une histoire mouvementée.
Parce que les menhirs à Byzance, il y en a pas
Bretagne. J'allais dire, entre la Bretagne et Constantinople, ça fait du chemin.
Oui, oui, mais c'est justement un pan de l'histoire que vous pouvez nous révéler. Oui. Ça vous inspire, Serge ?
Je suis déjà dedans.
Oh, bah ah, alors, allez-y, laissez-vous aller.
Tellement porteur.
Oui, il n'y a plus qu'à remplir.
Il n'y a plus qu'à remplir.
Il travaille, Dominique Muller et Serge Joncourt. Le temps pour moi de dire que si vous vous sentez d'humeur poétique, eh bien vous pouvez écrire vous aussi des poèmes avec les mots qui viennent d'être tirés au sort, à retrouver à la page des Papous, et les poster, vos poèmes, à la rubrique commentaires des Papous du jour. Et comme Dominique et Serge, donnez-vous une contrainte de temps, 25 à 30 minutes, pas davantage. Je sais, c'est plus difficile. On vous lit toujours avec délice. Dominique Muller, Serge Joncourt, ça s'est bien passé, vous avez l'air radieux, Serge.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai ?
Dit-il.
On peut avoir à nouveau ces mots avec lesquels vous avez joué.
Byzance Ambiance.
Oui.
Sacré-Cœur Remorqueur, Carambar Malabar, Trier Étrier, Brillantine Titine, Arsenic Bitnik, Mordre Désordre, Nyctalope Escalope, Poussin Coussin, Menhir Démunir.
Il y avait des bons mots. Hein.
Ah, des mots très évocateurs.
Oui. Lesquels avez-vous préférés?
Eh bien, moi, je me suis accrochée littéralement à Titine et à Byzance, parce que c'était déjà très évocateur pour moi, oui.
Oui. C'est pas votre premier recueil de poésie, Dominique Muller. Vous le signez de votre nom ou pas?
Non. Ils sont signés Jacques Kerouac. Ce sont des...
Un breton.
Un breton, oui. Sans doute un breton, oui.
Plutôt parce du nord.
Question plus de remorqueur, vous voyez, donc...
Oui.
Et c'est un poème de jeunesse.
Oui.
Paru dans un recueil, je pense, publié à compte d'auteur, qui s'intitule « I have a dream », parce que manifestement, il est très attiré par les beatniks.
Voilà. Puis quand on s'appelle Kerouac, hein, évidemment.
Bah, oui, on est,
on est influencé quand même. Oui. Et le recueil a pour titre
C'est le recueil qui s'intitule « I have a dream », et le poème « Titine Forever ».
Bon, on vous écoute, octosyllabe.
Octosyllabe, puis alexandrin.
Mmh.
Il a craché, je vais le mordre, ce petit vit dans le désordre, disait maman. Et l'escalope allait au chien, un nyctalope, au croc bavant les carambars que me volait ce malabar. Ce chien, maman, nos nuits, ambiance, enfance si loin de Byzance. C'est triste, hein ?
Ah, mais oui.
Ah, oui.
C'est la Bretagne.
Les enfances douloureuses.
Oui. Puis je partis chez les beatniks. La vie avait goût d'arsenic. Je dus les ordures trier. Ça met le pied à l'étrier. Et le cœur plus dur qu'un menhir, je sus de tout me démunir. Misère, solitude, ambiance, jeunesse si loin de Byzance. Jusqu'à ce coup bistrot, je rencontre Titine. « Tu m'éblouis, dit-elle, autant que Brillantine. Viens donc chez moi, nous dormirons sur un coussin. Nous serons si heureux, je serai ton poussin lorsque nous partirons en petit remorqueur. » Voilà comment j'ai vu Paris, le Sacré-Cœur. Titine, ô ma Titine, ambiance, vieillir ensemble, c'est Byzance.
Vous voyez ? C'est trop beau, oui. Oui, bah, Jean-Bernard Pouy avait sorti son mouchoir, d'ailleurs.
Il en... ouais, oui, pour moucher. Ah, il ferait bien de repartir aux États-Unis, Kerouac.
Ah bon, très bien.
Ouais, parce que là,
mais
c'est
pourquoi, là, il est tranquille dans son coin avec sa titine.
Mais il est heureux avec sa titine.
Mais Byzance.
Byzance, c'est vers Paimpol.
Ça me rappelle une blague d'un metteur en scène qui dit à un type qui fait une panne comme ça dans un film, il dit, bon, tu rentres, il y a une scène d'orgie, et tu cries, mais c'est Byzance. Le type rentre sur la scène, se précipite sur le premier acteur qui est là, fait, mais c'est Byzance.
Enchanté.
Bon, Serge Joncourt, vous avez vu ce que c'est qu'un joli poème. Vous avez entendu comme nous.
Oui, hein. Oui.
Est-ce qu'on est aussi dans ce registre un peu poignant avec vous?
Oh, poignant, non, je dirais pas. Il n'y a pas jusque-là, non.
Non. Quelle est l'atmosphère?
Pathétique, peut-être.
Ah ben, quand même, ouais, quand donc. Même.
Le titre du poème dit tout. Hein.
Alors?
Luxure seule.
Un luxure
seule.
Ah
ouais, c'est assez moderne.
Seule, S-E-U-L.
Bravo. Mais...
Non, mais ça pouvait être...
Ah oui, ça pouvait être quoi?
Eh bien, luxure seule, L-E, et ça voulait dire seule la luxure.
Ah oui.
Oui, ah oui, oui. Oui, mais enfin, l'intérêt, c'est de jouer sur tous ces doubles sens.
Oui, 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 de, non, non, moi, j'étais dans un sens unique. Ah oui, c'est vrai. Sens,
oui. Marche arrière, c'est tout prudent.
Et le recueil?
Le recueil s'appelle Relax Sandrin.
Relax Sandrin. Mm. Ah oui, donc vous avez écrit en alexandrin.
Oui.
Et c'est vous, Serge Joncourt, qui signez?
Oui, oh ben vous savez, oui, je suis dans l'autopoème, ce qu'on appelle nouvelle école de...
Oui, de poésie.
Oui, tout à fait, l'autopoème. Bon.
Et écoutez, Jacques Vallée, vous allez découvrir des choses.
Oui, on va prendre les doubles commandes. Hein.
Quel est le mot qui a déclenché votre verve poétique?
Alors... Parler de verve poétique...
C'est un grand mot.
Je n'irai pas jusque-là. Non, moi, c'est Poussin, vous savez bien.
Ah, c'est Poussin.
Tout part de là.
Mais Poussin, le peintre...
Vénus et Adonis. Ah.
Allez, laissez-vous aller.
Chez moi, tranquille, à contempler mon Poussin, mollement installé sur mon si doux coussin. Oui. Je ne vais pas trop vite, Jacques Vallée.
Vous savez que dans les alexandrins,
il y a 12 pieds, pas 11.
Oui, ce sont des relaxandrins. Je goûtais de mon salon la suave ambiance.
Oui.
Rester à la maison, il n'y a pas, c'est Byzance. Dans l'axe de ma fenêtre, trônait.
Ah oui, fenêtre trônait. Ah oui.
Le Sacré-Cœur.
Oui.
Phare de Paris, que dis-je? Remorqueur. Ton dôme luisant, enduit de brillantine, dressé sur ta butte, tel un fervent menhir.
Ah, carrément.
Oui.
Ouais.
Mais te décrire revient à se démunir. D'autant qu'il en faut plus pour caser la titine. Ça fait,
c'est une petite difficulté, titine.
Non, oui. On peut dire ça. Sur ce, j'avais faim. Et me file l'escalope.
C'est toute la poésie de Serge Joncourt. Sur ce, j'avais faim. Mais je trouve que c'est formidable.
Et me file l'escalope dans le noir, s'il vous plaît, car je suis nyctalope. Oui, enfin, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans... Faut lire tout le...
C'est votre vie privée, oui, hein, après en tout, même temps. Hein. Oui, oui.
Qu'il est bon dans le frigo de mettre le désordre et goûter à la vie, que dis-je, y mordre.
Ça, c'est pas mal, hein. Et goûter à la vie, que dis-je, y mordre, on sent un élan, une envie.
C'est vraiment du Joncourt, c'est bon.
Oui, voilà. Ah, c'est pas du Kerouac, hein, évidemment.
Du Kerouac. Mais comme dans ses loisirs, il faut savoir trier. Ne rien faire vous met le pied à l'étrier.
Mmh.
C'est du Racine. Hein.
Non, pas, non, je ne dirais pas ça.
Non, c'est les trois mousquetaires. Ça.
Trois moustiquaires. On peut fumer au lit, peinard, en bitnik, pour éviter des barres, les coûteuses arseniques. S'autoriser parfois un demi-carambar.
Ah oui.
Être heureux dans sa bulle. Oui, mais de Malabar.
C'est
une licence.
Ouais.
C'est une licence.
Moi, je n'ai pas compris toute l'histoire. Vous pourriez résumer, Jean-Bernard Pouilly ?
Oh ben, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui se demande ce qu'il va faire, et puis qui, comme à chaque fois, va terminer dans le frigo.
Jean-Bernard Pouilly, oui, à vos heures, à vos bonnes heures, je ne sais pas, vous faites des petites chroniques, critiques littéraires dans un magazine, je ne sais pas lequel d'ailleurs.
L'écho du Cresbraise, c'est un journal centre-breton. Erwan Argouache. Argouache.
Ça veut dire quoi en breton, ça ?
Je ne sais pas. Bah, moi,
c'est la raison pour laquelle vous êtes intéressé au livre de Jacques Kerouac, je suppose.
Oui, parce que je le connais bien. Je passe mes vacances souvent là-bas, et donc je le connais, oui. Je ne m'étendrai pas sur les raisons exactes.
Copinage.
Tant mieux, d'ailleurs.
Oh, bon, je vous ai fait un bon article. Oui, tant mieux. Mais parfois, il faut se méfier de ses amis. Hein.
Oui, avec des amis comme ça, ce n'est pas la peine d'avoir d'ennemis.
C'est ce qu'on dit, oui. Alors, qu'est-ce que vous dites sur son livre « Titine Forever » avec « I have a dream »
Voilà. Pour l'anniversaire de la disparition de Glenmore, le beatnik breton, notre confrère, Jack Kerouac, lui-même critique littéraire au Biniou de Roscoff, vient de publier un recueil de poèmes en breton léonard qu'il propose aux lecteurs, couplé à une traduction en français. Je ne parle pas bien le breton.
Non.
Pas parfaitement. Mais je trouve que la traduction est moins convaincante que l'original, qui, lui, est toujours plein de varech et de pommes à cidre. Il s'est ingénié à la faire en vers, cette traduction. Ce qui donne quelques couples malheureux comme Escalope et Nyctalope, ou bien Menhir et Démunir. En breton, les mots me semblent plus chauds et justes. Mais Jack Kerouac, je le sais, nous voyons parfois à la pêche au pétoncle, en a assez de n'avoir des lecteurs qu'en Centre-Bretagne. Alors, il tente à présent de subjuguer l'Hexagone. Je ne voudrais pas en aucun cas le décourager, mais avant de séduire la francophonie, il faudrait qu'il se débarrasse de quelques-uns de ses oripeaux bretons, car tout est breton en lui. Titine, c'est la serveuse du café chez Le Duff, à Plouarette. Byzance, c'est le resto ouvrier de Cléder. La Brillantine, c'est le nom que l'on donne à Vuescat, au café arrosé de l'Ambigue. Et Remorqueur, c'est le nom de son petit bateau de pêche, au casier. Arsenic, c'est ce qui désigne le café, servi justement chez Titine. Si le lecteur ne connaît pas tout ça, il loupe tout le sel de ce poème à clé.
C'est sûr, oui.
Pour nous, c'est le poète et boueur le plus célèbre du Finistère. Nous aimons ses poèmes, mais en breton. La traduction en français est comme un Kouign-Amann fabriqué à Montargis. Un ersatz un peu bancal. Mais qui nous fait quand même chaud au cœur. Ce cœur qui n'est pas que de granit et de kersanton. Ce cœur qui bat quand souffle la tempête. Kenavo, Jack Kerouac et Yermat.
Ça fait quand même plaisir, non,
Dominique Muller. En fait, même, il y a quelques petits cailloux, comme par-ci, par-là. Je lui revaudrais ça, quand il publiera lui-même son prochain recueil.
Oui, mais c'est pas franchement méchant.
Enfin, tout de même, le côté régionaliste, qui n'est pas du tout dans mon esprit...
C'est pire qu'un régionaliste, c'est breton.
Non, mais qu'est-ce que vous avez contre les bretons?
Mais oui, en plus,
j'ai rien contre les bretons.
Même bretonne. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est nuancé, donc on croit à la véracité de cette critique. Et
de toute façon, c'est un article, c'est tout ce
exactement.
Qu'on demande.
Exactement, oui, oui. Et puis en choisissant bien les phrases, on peut le rendre extrêmement élogieux.
On peut faire un bandeau très élogieux.
Et vous savez, Serge Joncot, vous avez travaillé avec les mêmes rimes, évidemment, parce que le critique, là, il s'attaque aux rimes,
en
les
plus,
rimes vous
étaient si,
imposées.
Comme si on y était pour quelque chose,
et
exactement.
Non, elles n'étaient pas de vous, les rimes.
Le critique, il ne sait pas ça.
C'est vrai. Ah,
oui. Eh bien, il devrait se renseigner, le critique, quand même. Donc, vous avez publié Luc sur Seul dans Relax Sandrin.
Oui.
C'est un très beau poème, compliqué à comprendre.
Ah bon?
Ah oui, qui ne se livrait pas si facilement.
On dit exigeant dans ces cas-là.
Exigeant, voilà, c'est le mot. Et Jacques Vallée, je sais qu'il l'a chroniqué. C'est un cadeau qu'il vous fait quand même. Dans quel journal ou magazine?
C'est une petite revue cantonale qui s'appelle Le Ver Luisant. Oui. Et je m'appelle Max Chapoutreau.
Ah. Le fameux.
Max Chapouton. Chapouton.
Ah, Chapouton.
Il ne faut pas mélanger Chapouton
et Chapouton. Ah oui, moi je connais Chapouton, vous aussi.
Eh bien voilà, moi aussi.
Ah, ça alors.
Dommage. Alors donc, j'ai bien peur que cette publication brillante mette un terme à ma carrière, parce que je suis déjà un vieux chroniqueur. Oui. Et vous allez voir, j'écris quand même un article assez louangeur, mais assez affecté.
Ah bon ?
Dès son premier recueil, Robert Legrand témoigne d'une étonnante aisance. Moi, qui ai derrière moi des années et des années et des années de critiques poétiques qui coulent sous les plaquettes de verre que chaque jour le facteur déverse dans l'entrée de mon pavillon, bref, jamais encore. Je n'ai ressenti dès le premier poème, intitulé « Avec audace, luxure, seul ». Je souligne seul, sans eux, comme si Legrand savait déjà que son avenir n'était pas dans les œufs. Et qu'il serait tout de suite Legrand, Legrand. Mais ce qui me sidère davantage, c'est comment ce poète naturel prend de la hauteur avec le quotidien. Je ne peux pas m'empêcher de voir la haute silhouette du Sacré-Cœur briller dans les fenêtres de son quotidien et de sentir le vent du large quand il compare ce menhir dressé sur la butte à « admirer lecteur » à « un remorqueur ». Le grand vous embarque, ainsi réussit-il à nous entraîner dans la féerie du quotidien en faisant magiquement rimer brillantine avec matitine. Cette brillance de Robert Legrand ne nourrit pas seulement l'esprit, mais aussi le ventre. Voilà enfin une poésie qui nourrit son homme. À la fois le poète, quand le nid de talope se tient dans le noir pour dévorer son escalope. Mais aussi, il nourrit le lecteur, à qui il communique cet appétit vorace, que dis-je, cette race, écoutez, qu'il est beau dans le frigo de mettre le désordre, de goûter à la vie, que dis-je, y mordre. On se croirait dans les chiens de Baskerville, avec déjà la sagesse d'un Conan Doyle et sa philosophie si profonde. Écoutez encore, ne rien faire vous met le pied à l'étrier. Si profonde, dis-je, que je suis attiré dans cet abîme, il se pourrait bien que Robert Legrand, en mettant le pied à l'étrier, et réussi à me faire tomber de cheval. Bravo.
Faut du donc, hein, c'est flatteur.
Oui, oui.
Vous êtes à peu près sûr d'en vendre, je ne sais pas, 10 ou
moins. Oui, mais c'est une revue qui éclaire nos nuits d'hiver.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. À télécharger sur franceculture.fr, rubrique podcast pendant un an. À réécouter 1000 jours sur la page des papous, page sur laquelle vous pouvez aussi déposer vos questions, remarques, essais sur les jeux papous, nos bourrinets du jour. Et puis, regardez les infos sur nos papous en public à Brest, samedi 6 février, à la page Vie du Club et sur notre page Facebook. On se retrouve dimanche à 12h50 pour de nouvelles aventures papouesques. Au revoir, passez un très bel après-midi bien au chaud à l'écoute de France Culture.
Quoi, quoi ? Ah !